qu'est-ce que Hanouka doit commémorer. Et puis ce n'est qu'avec le temps que ça s'est cristallisé. Hanouka commémore quoi ? La victoire militaire des Maccabées ou la fiole d'huile ? Oui, il y a tout un temps où ça se décante. Il arrivera un temps où tous les Juifs, pour tous les Juifs, n'ont plus aucun doute, Yom Ha'atzmaout, Yom Ha'atzmaout. En attendant, on vit un temps de transition où chacun est son caprice. Okay. Mais si on se confronte à l'événement que 2000 ans après, l'indépendance nationale juive revient, de voir l'événement dans sa massivité, on se rend compte qu'il y a un problème de fond. Ceux qui n'y croient pas, en quoi ils croient ? Je ne sais pas si c'est clair ce sujet-là. Okay. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu qui a fait ça, qui c'est qui a fait ça ? Et il y a un problème très grave. C'est chez les juifs religieux qui ne croient pas en Dieu. Ils sont très religieux, mais ils ne croient pas en Dieu. Je parle du Dieu d'Israël, bien sûr. Et c'est dramatique pour eux, d'ailleurs. J'en connais plusieurs, j'allais dire, qui ont été mes amis. Enfin, ils sont encore mes amis. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais ils sont très malheureux. Parce que la réalité dément leur fidélité à des caprices. Finalement, le fond du problème, c'est quelqu'un qui assiste à ce qui se passe pour Israël depuis 50 ans, après 2000 ans d'exil, après la Shoah, après tout, c'est tellement massif, et qui n'arrive pas à se rendre compte que c'est Dieu qui fait ça, en quoi il croit ? Je ne sais pas si c'est clair ce sujet-là. Okay ? C'est très grave ce sujet-là. C'est très très grave. Bon, alors rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des gens contemporains de Moïse qui ne croyaient pas dans les miracles à la sortie d'Égypte, et qui ne croyaient pas que c'est Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Les contemporains de Moïse, tous les grands d'Israël étaient contre Moïse. Et on revit quelque chose de très analogue. Réfléchissez bien à ça. Hein. Ça commence depuis le commencement, ces histoires de fous. Voilà. Donc il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Mais je veux dire, quand on découvre quelque chose d'invraisemblable et qu'on croit que c'est nouveau, on le découvre comme tragique. Que 4000 ans après, dans l'histoire d'Israël, on ne soit pas capable de comprendre si l'État d'Israël, c'est la providence ou pas, alors de quoi on s'occupe, okay. Si on croit que c'est la première fois qu'un tel désarroi apparaît, ça risque d'être tragique. Il faut se rassurer, c'est comme ça depuis le début. Je ne sais pas si c'est clair. Okay. Au temps de Moïse, la majorité des grands d'Israël n'ont pas cru que c'est Dieu qui les ait sortis d'Égypte, Israël. Et ils ont été responsables que 4/5 des Hébreux se sont perdus en Égypte. De la même manière que de notre temps, la majorité des grands d'Israël n'ont pas cru que le temps du retour était arrivé. Je continue pas la suite, mais vous savez de quoi ils sont responsables. Okay. Et ça continue, le plus fort. Okay. Alors vous voyez, pour dédramatiser ça, il faut simplement se rendre compte que ce sont des constantes dans l'histoire d'Israël. Et il arrive un temps où ça finit par se décanter. Alors aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais c'était une minorité, les gens qui y croyaient au début. Hanouka, c'est la réinauguration du temple contre les Grecs. Mais c'était une minorité des gens qui ont cru au début. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, au Matzmaout, il y a une minorité qui y croit. Mais c'est cette minorité-là qui finalement restera dans la tradition. Vous avez compris le problème ? Le temps que ça prendra, j'en sais rien. Mais ça fera du mal à tous ceux qui se sont trompés. En tout cas, lorsque on rencontre l'événement dans sa massivité, on ne peut pas être, ne pas être interloqué. Les gens qui cherchent un signe magique pour comprendre l'événement, alors que c'est l'événement qui est son propre signe. Et dans le fait que c'est un événement massif. Pendant 2000 ans, les Juifs ne pouvaient pas retrouver leur indépendance nationale. Finalement, ils la retrouvent. Et puis, avec l'hostilité du monde entier, comme vous le savez. Et puis, on discute de savoir si c'est un jour de fête ou pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère invraisemblable de ce manque de foi de ceux qui sont censés avoir la foi. C'est une maladie de foi. Bon, vous avez compris le problème. Mais je vous dis les choses très sérieusement, tout en mesurant l'énormité de la chose. Le Talmud en parle, des tzadikim, ktanei emuna, les tzadikim qui n'ont pas la foi. Ils sont tzadikim, ils pratiquent avec une minutie extraordinaire, comme c'est pas possible, mais ils croient pas. La preuve, c'est que quand l'événement arrive, il ne le voit pas. Est-ce que vous avez compris le problème ? Vous avez bien compris, c'est clair. Alors, sachez que c'est dramatique pour eux. J'ai des amis médecins qui s'occupent beaucoup dans ces milieux, surtout des psychiatres, qui sont très inquiets des désordres psychiques que ça induit dans ces milieux. Parce que quand la réalité contredit les croyances intimes, ça se transforme en traumatisme qui la plupart du temps explique pourquoi il y a une telle violence dans ces milieux-là. Des gens qui violent le Shabbat quand une voiture passe à côté de chez eux, c'est d'une violence incompatible avec quelqu'un qui est censé pratiquer le Shabbat. C'est un désordre psychique. Et ça vient d'où ? Ça vient du fait que la réalité contredit leurs croyances. Alors qu'il n'est pas question qu'ils mettent en question leurs croyances, ils mettent en question la réalité. C'est le commencement de la folie, quand on met en question la réalité. Et le commencement de la folie, c'est la violence. Je ne sais pas si c'est clair. Méfiez-vous de tout ça. Et alors, ils sont acculés d'ailleurs à des positions extrêmement pénibles. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, alors c'est le diable. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? Et ils vous le disent tranquillement. C'est le diable qui fait ça. Et ils en vivent, comme des parasites du diable. Hein ? C'est énorme comme une tragédie de ce qui se passe. Et ça, c'est censé être les gens pieux d'Israël. Alors, vous voyez, si je vous explique tout ça, c'est pour faire comprendre que Yom HaTzmaout, ça pose un problème, mais c'est un problème qui nous est connu depuis l'origine de l'histoire d'Israël. Hein ? Référez-vous à l'événement massif de la sortie d'Égypte. Quand Moïse vient dire, c'est le temps, Dieu a décidé de vous délivrer, 4/5 des Hébreux ont refusé. Ils sont restés en Égypte, dans la plaie des ténèbres, comme vous avez appris cela dans la dernière. Et il a fallu que Dieu se fatigue à faire des miracles pour les persuader, et ça ne persuadait personne. D'ailleurs, miracle ou pas miracle, c'est très grave, cette histoire-là. Alors ça, c'est pour Yom HaTzmaout. Et alors donc, dans les milieux des rabbins sionistes, je me rappelle la première fois que c'est arrivé, parce que vous êtes né après l'État d'Israël. Moi, c'est l'inverse, l'État d'Israël est né après moi. Alors que la première année, j'ai demandé à mon rabbin, qu'est-ce qu'on fait pour Yom HaTzmaout ? Ça veut dire, on se rase, on arrête le deuil ou pas ? Il me regarde, il me dit, tu es juif ou tu n'es pas juif ? C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14h ? Est-ce que c'est clair ? Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne vont pas se raser Yom HaTzmaout, ce n'est pas des juifs, c'est pire. C'est des juifs qui ne se rasent pas Yom HaTzmaout. Il n'y a pas une plus grande maladie mentale que ça. Quand l'événement arrive et qu'on n'arrive pas à le voir, c'est grave. Et je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Mais c'est surtout cette idée que je voulais éclaircir. Ce qui n'est pas en ordre, c'est qu'on cherche un signe alors que l'événement est massif. Ça ne fait pas partie du judaïsme, de chercher des signes magiques alors que c'est Dieu qui dirige les événements, pas les signes. Ce n'est pas Dieu qui fait naître les voies à cinq pattes. Ça, c'est un déchet statistique comment on appelle cette science-là qui s'occupe des... l'amélioration de la race ovine. J'ai oublié. Dans la génétique des bovins et des ovins, il y a des déchets statistiques. Tous les 10 000 naissances, il y a un voie à cinq pattes. C'est pas Dieu qui s'occupe de ça. Il a mis des lois et les lois fonctionnent. Mais quand arrive un événement de ce type dans l'histoire d'Israël, qu'au bout de 2000 ans, il y a une restauration de la souveraineté politique perdue au temps de Bar Kokhba, autant de Rabbi Akiva et autant des Romains, dans les choses invraisemblables qui se sont passées il y a en 48, au moment de la libération du pays. Bon, n'étiez pas vivant à ce moment-là, en tout cas pas tous, mais vous avez dû lire à quel point c'était invraisemblable qu'une poignée de sionistes du Yishuv ici en 48 arrive à tenir en échec le monde arabe tout entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi il s'agit, hein. Et puis on commence à discuter, est-ce qu'on va dire Hallel, est-ce qu'on va dire Bracha, de quoi il s'agit, hein. Ça y est, c'est clair, je pourrais vous répéter ça 70 fois, hein. Mais réfléchissez que c'est une maladie mentale, hein. C'est des gens qui ont trop pris de thé à la menthe. Quand je prends du thé sans menthe. Baruch atah, Ram Shem, Kol Yamid Baruch. Bon, alors on va d'abord réfléchir sur ce fait, que signifie cette période du Homer entre Pessah et Shavuot, qui puisse nous permettre de comprendre que tous ces événements dont on a parlé se passent à cette période-là, et en particulier donc les événements du calendrier israélien que je viens de vous énumérer. Vous remarquez en tout cas que ces événements du calendrier israélien sont de deux sortes, le deuil et la joie. Je prends l'exemple, Yom HaShoah, c'est un jour de deuil, et puis Yom HaZikaron, c'est un jour de deuil, le lendemain, d'ailleurs c'est très difficile à vivre. Le Yom HaShoah, c'est vraiment un jour de deuil, surtout pour ceux qui ont eu des morts à la guerre dans leur famille. Et la fin du deuil commence la joie de Yom HaTzmaout. Je crois que le gouvernement israélien et la Rabbanout seraient obligés de réfléchir s'il ne faut pas, il faut pas mieux distinguer ces deux jours-là. Parce que vous avez des familles qui sont en deuil et qui, dès que le deuil finit, doivent commencer la fête. Je pense tout. Hein. Quoique, nous avons un exemple, c'est Pourim. La veille, c'est un jeûne, et dès que le jeûne finit, commence la fête. Et malgré tout, c'est à l'échelle nationale, à l'échelle d'une mémoire du peuple. Tandis que là, c'est au niveau des familles, c'est pas simple à vivre. Et l'Agba Omer, le plan, c'est dans l'Agba Omer. Le Omer, c'est un deuil, et puis c'est interrompu par un jour de joie, l'Aïloula, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez, après, il y a la même atmosphère dans tous ces événements. Et puis il y a, deuxième remarque, remarque supplémentaire, une progression. Ça va de Pessah à Shavuot. Regardez dans l'ordre. Yom HaShoah d'abord, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaout, Yom Shichur Yerushalayim, et après Shavuot. Et vous remarquez d'ailleurs que nous sommes dans une période du Homer, et où nous sommes en train de vivre des événements extrêmement graves concernant l'indépendance d'Israël. Et je ne sais pas si vous remarquez que, par inadvertance, je ne sais pas comment dire, je cherche un adjectif vertigineux. Le gouvernement israélien avait décidé que l'évacuation des territoires se ferait d'Afka le 13 avril, c'est-à-dire le jour du Yom HaZikaron, et le bon Dieu a décidé que ça ne se fera pas quand même. Vous suivez les nouvelles, ben ça ne se fera pas ce jour-là en tout cas. Mais nous sommes dans une période où on s'approche de Shavuot. Je veux dire, vous suivez la progression, ok? Donc après Yom HaZikaron, qui est le 28 Iyar, avant Shavuot, il y a encore quelques jours pour fixer une date qu'il faut souhaiter être de fête et pas de deuil. Je ne sais pas si c'est cette année, mais si jamais c'est cette année, vous direz un Hallel de plus. voilà en tout cas le problème. Quelle heure est-il? Oui, je vois que tu regardes pas ta montre, mais... Hein? Oui, alors vous allez prendre 5 minutes de détente et on va continuer tout à l'heure. Bien, alors je vais repartir de la définition, vous voyez, de la définition de cette période qu'il y a entre Pessah et Shavuot, période que nous appelons la période du Homer, avec une première remarque, c'est que la seule date du calendrier qui n'est pas indiquée par la Torah, suivant l'événement qu'elle doit commémorer, c'est précisément la date de Shavuot. Il n'y a aucun verset qui institue dans la Torah que le 6 Sivan doit être considéré comme la fête de commémoration de Matan Torah, c'est-à-dire de la révélation au Sinaï. On apprend à la lecture du récit historique que le troisième mois de la sortie d'Égypte, de la première année, donc le mois de Sivan, le sixième jour, il y a eu la révélation au Sinaï. Mais il n'y a aucun verset qui institue ce jour-là comme étant la fête de Shavuot, comme Matan Torah. Shavuot, ça veut dire les semaines. En fait, la Torah institue que 50 jours, c'est-à-dire le lendemain de 7 semaines après Pessah, il y aura la fête des semaines, c'est-à-dire la fête des prémices. Alors vous allez noter les différents noms de la fête et je reviens à la première remarque. Shavuot, ça veut dire les semaines. Parce que c'est le jour qui est fixé le lendemain de la 7e semaine à partir de Pessah. C'est clair ? Vous avez le mot français de Pentecôte qui vient du grec et qui signifie 50e jour. Pentecôte, c'est le mot français, mais ça vient du grec et ça signifie le 50e jour en grec ancien, moderne aussi d'ailleurs. Hag HaBikurim, c'est-à-dire le jour de Shavuot, c'est la fête des prémices et s'appelle Hag HaBikurim. Vous connaissez ce mot de Bikurim? Donnez-moi un mot qui ressemble. Bechor, qui signifie le premier-né. Les prémices, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les premières, l'apparition des premières récoltes. Alors vous avez Shavuot, Hag HaBikurim, ça c'est les noms bibliques de la fête. Et puis Matan Torah, le don de la Torah, Shavuot comme Matan Torah, ça c'est Midrabanan, la tradition rabbinique, la Torah de Alpé, donne toujours un titre à la fête qui est différent du titre biblique. Vous voyez, Shavuot, c'est Hag HaBikurim pour Midoraita, pour la Bible, et pour la tradition talmudique, c'est Matan Torah. Mais nous n'avons aucun verset qui institue le six Sivan comme la fête de Shavuot, comme Matan Torah. Est-ce que c'est clair? Et alors, plus encore, c'est clair jusque-là, hein, plus encore, le six Sivan n'est pas indiqué comme jour de la fête de Shavuot. Le jour de la fête de Shavuot pour la Torah, c'est le lendemain de la septième semaine. C'est-à-dire Shavuot est indexé à Pessah. Shavuot est fixé par un compte de 50 jours à partir de Pessah. C'est un cas particulier du calendrier. Vous avez compris ça? Donc c'est une période en soi. Alors, je vais vous donner une définition, vous me direz si c'est suffisamment clair, tout ça s'étudie en détail dans le Talmud. La fête de Shavuot est appelée, déjà dans la Bible, Atzeret. Atzeret, ça veut dire la clôture. Vous avez une autre fête qui s'appelle aussi Atzeret, c'est laquelle? Shmini Chara Atzeret. Le lendemain des 7 jours de Sukkot, le 8e jour de la clôture, c'est Shmini Chara Atzeret. Et c'est d'ailleurs, comme par hasard, une fête qui s'appelle aussi. J'ai entendu? Non. Non. Hagakatir, mais c'est pas Shmini Chara Atzeret. C'est Sukkot Hagakatir. Ça s'appelle Simchat Torah. Ça se relie à la Torah, mais c'est Simchat Torah. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, deux fêtes de la Torah. Une à Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire le don de la Torah. Et une à Shmini Atzeret, le lendemain de Sukkot, c'est Simchat Torah, la joie de la Torah. Et pourquoi il y a deux fêtes? Une après Nissan et une à Tishri. Ça se relie à tout notre problème d'ailleurs, mais je vais un peu simplifier. Alors, Atzeret, ça veut dire la clôture. Alors, tout se passe comme si Shavuot est considéré, suivez bien, comme la clôture de Pessah. Tout se passe comme si Shavuot, c'est un 8e jour de Pessah, décalé de cette semaine. Retenez cette définition, c'est la plus simple pour vous définir le problème. Et alors, vous voyez comment ça correspond à Tishri. À Tishri, vous avez les 7 jours de Sukkot, et le lendemain, c'est Shmini Chara Atzeret. Il n'y a pas ce décalage de cette semaine. Et donc, la Atzeret de Pessah est décalée de cette semaine, et c'est cette période-là qui est la période du Homer. Alors, une définition très simple. Pessah, c'est la libération nationale d'Israël, physique. Shavuot, c'est la libération spirituelle. Alors, il y a, entre ces deux niveaux, il y a une période que nous allons définir, et déjà, ça vous apparaît de façon plus claire, comme une période de transition vulnérable, dangereuse, je préfère plutôt vulnérable, où vont se loger les événements qui se relient précisément à ce qui s'est passé à Pessah, la libération d'Israël. Tous les événements qui vont dans le progrès de cette libération, entre Pessah et Shavuot, se situent là. Et tous les événements qui risquent de mettre en échec cette libération se situent là. Vous voyez, il s'agit de réussir ce passage de Pessah à Shavuot. Si on le réussit, c'est acquis, c'est irréversible. Pessah a mené à Shavuot. Et si on échoue, c'est là qu'on échoue. Vous avez compris pourquoi cette ambiguïté, la période du Homer, et deuil, et suspension du deuil, vient se situer entre Pessah et Shavuot. Et tous les événements dont nous avons parlé sont soit les événements qui viennent conforter, consolider la libération nationale d'Israël, soit au contraire les événements qui viennent la mettre en échec. Est-ce que c'est clair? Alors Alors, je reprends un petit peu la première remarque de départ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a effectivement deux niveaux radicalement différents. Et on a comparé cet événement de la sortie d'Égypte, et c'est plus qu'une comparaison d'ailleurs, mais je vais rester au niveau de la comparaison, c'est plus qu'une comparaison. C'est l'événement lui-même a la même signification, a une naissance. À la sortie d'Égypte, Israël va naître comme nation, exactement comme au moment d'un accouchement, un enfant né à ce qui va être son histoire et sa vie. Il y a une période embryonnaire où l'enfant est dans le sein de sa mère. Il y a une période embryonnaire où Israël était en gestation dans la civilisation du temps. Et au moment où cette gestation arrive à terme, alors il y a la naissance, c'est la sortie d'Égypte. Le Midrash nous fait suivre cette correspondance très en détail. Et c'est vraiment comparé à un accouchement. Il y a trois sortes d'accouchements, nous dit le Midrash. Il y a l'accouchement sans douleur, quand on arrive à mériter, et la mère et l'enfant. Il y a l'accouchement avec douleur, et il y a l'accouchement au forceps, si j'ose dire. Quand l'enfant ne veut pas naître, il faut l'obliger à naître. Ou quand la mère ne veut pas laisser naître l'enfant, il faut obliger la mère. Ça s'appelle une césarienne. On fait intervenir le César du temps pour que la libération soit possible. Et vous avez compris qu'effectivement, c'est ce qui se passe à la sortie d'Égypte. Il y a trois parties du peuple qui ont connu une sortie d'Égypte très différente. Une partie du peuple qui a voulu naître à l'histoire d'Israël, c'était la tribu de Lévi. Une partie du peuple pour qui c'était très difficile, les persécutions jusqu'à ce qu'il y ait eu expulsion. C'est comme ça d'ailleurs que les gynécologues parlent de l'expulsion, etc. Et puis une partie du peuple à qui il a fallu obliger, par force, au forceps, Beat Hazaka ou Zohar Netuya. Et chaque fois, à chaque fin d'exil, on s'aperçoit du même problème. Le peuple éclate en trois tendances. Ceux qui veulent, il n'y a pas de problème, c'est facile. C'est, dans notre cas du temps actuel, c'est ceux qui sont venus volontairement fonder l'État d'Israël, qu'on appelle les pionniers. Et les gens ne se rendent pas du tout compte à quel point il y a une différence de stature avec ceux qui, il y a 100 ans, jusqu'à il y a 40 ans, enfin 40, combien cette année, 45 ? 46, oui. Ont fondé l'État d'Israël. Et puis les sionistes contemporains, entre guillemets, réclament leur droit de rôler. Ils appellent ça en français les Olim. Vous savez que c'est Zol en hébreu, les Olim. Il ne faut jamais dire les Olim, c'est pas joli, il faut dire les Olim. Et c'est Bezol. Je me rappelle, moi, quand j'ai fait mes stages de Alia, on avait nos stages sous tente dans des cailloux dans le désert. Et aujourd'hui, on fait ça dans les hôtels 5 étoiles. Je ne sais pas si vous rendez compte, la différence. Et je vais vous raconter une histoire sioniste. C'est l'Alia de Ben-Gurion. C'est une blague sioniste de Yom HaTzmaout. C'est Ben-Gurion qui vient comme touriste en Israël. Alors on le reçoit avec tous les honneurs dus au président de la Fédération sioniste de Trifouille les Oies Kachères. Et puis... Glad Kacher. Et puis, hôtel 5 étoiles, tour vers aller, visite à la Knesset, tout ce que vous voudrez. On va même visiter un kibbutz, hein, la réserve des Indiens. Et finalement, il décide, ça vaut la peine, il va à la Sornout, il ouvre un dossier d'Alia. Et puis il arrive, on lui donne une pioche à Dimona, creuse. Et les hôtels 5 étoiles, et tout vers aller. Il dit, t'es touriste, maintenant t'y as olé, débrouille-toi. Alors, on revient. C'est bien vrai. On revient aussi. De quoi je vous parlais d'ailleurs, j'ai pensé à la rallye. Ah oui. Non, ça m'échappe la transition. De quoi j'ai parlé juste avant ?
Trois sortes de gens.
Ah oui, trois sortes de gens. Ceux qui sont venus parce qu'ils étaient normaux. Tout simplement. Ils n'ont pas eu besoin de la Sornout. D'ailleurs, pour arriver à réussir une Alia aujourd'hui, il faut le faire malgré la Sornout, comme vous le savez peut-être. C'est son rôle d'empêcher la Alia. C'est l'histoire juive, ça. Et j'ai remarqué ça. En plus, ce n'est pas une blague. Hein. C'est une histoire de fou. Bon. La Sornoute, c'est une locomotive qui marche avec des roues carrées, il faut le savoir. Alors c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors en tout cas, pour revenir au problème, il y a une deuxième partie, c'est les persécutions qui les obligent à venir au pays. Et les persécutions, ça dépend des époques. Parfois c'est des persécutions violentes, parfois c'est des persécutions non violentes, mais enfin c'est toute une série de désagréments. Finalement on se sent mal à l'aise, alors on se dit pourquoi pas, on va aller au pays de refuge, le pays des ancêtres. Et en général, on s'inscrit à un parti contestataire. Et vous avez remarqué, surtout chez les Français, okay, enfin les francophones. Les Français, je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore. Et puis la troisième partie, alors c'est vraiment la catastrophe qui les oblige à venir. La catastrophe, c'est-à-dire sans valise, sur les valises. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça depuis toujours. Okay. Alors en particulier à la sortie d'Égypte. Or, il y a de nouveau une convergence, une coïncidence. Qu'est-ce qui a déjà remarqué quelle était la paracha de la semaine? Quelle est la paracha de cette semaine? Ma Tazriar, très bien. Qu'est-ce qu'on apprend au début de Tazriar? Oui, mais exactement de quoi parlent les premiers versets de Tazriar? Parle-moi français, moi je comprends pas le patouette. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Parle français.
Lorsqu'une femme accouche et ce premier jour le nida.
J'ai rien compris. Il faut que je prenne un dictionnaire pour voir que ça veut dire nida. Parle français. Ah, ça veut dire ce qu'on apprend, c'est que la naissance induit, je cherche un mot, pour conséquence, comment on dit en français, j'ai oublié, entraîne une impureté. Voilà ce qu'on apprend. On est tellement habitué qu'on voit que ça va de soi. Ça va pas de soi. C'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? À partir du moment où il y a une naissance, ça entraîne une impureté. Et alors, il faut laisser passer le temps de l'impureté.